Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Fabrice Hawkins qui se prépare pour la Coupe du Monde. La valise est prête, Fabrice, ou pas encore? Toi, c'est le genre de mec à la faire deux dernières heures avant le départ, non?
Exactement.
Mais quand t'es quelqu'un de simple, Nico, tu mets
il arrive à l'aéroport, mince la brosse à dents. Il va en acheter une. Mince, ça coûte 350 euros à l'aéroport, tout est plus cher. Et il passait en note de frais en plus d'argent.
Oui, mais c'est toi qui m'as dit.
Elton Mokolo est là également ce soir. Adem aussi. On est ensemble jusqu'à 22h, la dernière demi-heure de Génération After, avant de passer le relais tout à l'heure à Maxime Chano, Lionel Charbonnier et Karine Galli pour l'after jusqu'à minuit. Alors, on accueille une grande voix de l'after historique. Thibaut Leplat est avec nous. Salut Thibaut.
Salut Thibaut.
Salut les gars, salut camarades, ça va bien?
Salut Thibaut, comment Thibaut ça va en direct de Madrid. Il y a un petit décalage de 3-4 secondes, donc ne coupons pas Thibaut, sinon ça va être la cacophonie. Alors Thibaut, on est heureux de t'avoir pour parler d'un sujet qui est proche géographiquement de toi, qui est proche aussi, je pense, en termes d'intérêt journalistique, la campagne pour la présidence du Real Madrid. Un régal, nous, à suivre à distance en tout cas. Franchement, je disais, c'est popcorn. Les deux candidats envoient des promesses folles. D'un côté, je précise le contexte, le président sortant, mythique, légendaire, à Madrid, Florentino Pérez, 78 ans, et en face, son concurrent, Enrique Riquelme, 37 ans. L'élection, c'est dimanche. Première élection, d'ailleurs. Nous, on découvre un peu l'ambiance depuis 20 ans pour prendre la présidence du Real Madrid. C'est à qui fera les plus grandes promesses, Thibaut. Raconte-nous comment c'est vécu là-bas. On dirait quasiment une élection politique, hein, avec des vrais candidats. Ça fait beaucoup parler à Madrid, j'imagine.
Bah, c'est comme une élection présidentielle. Hein. Vous avez deux candidats, vous avez des programmes, vous avez des promesses. Alors là, cette fois-ci, les promesses, c'est Haaland d'un côté, c'est Dumfries de l'autre. Vous avez des programmes. Bah, certains, ça va être pour Florentino, ça va être de continuer à faire ce qu'il fait. Il a quand même gagné 7 Ligue des Champions. Bon, donc on va dire que le bilan est plutôt positif pour lui. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. De l'autre côté, vous avez un concurrent moins connu, plus jeune. Plus moderniste, qui va dire il faut moderniser le club, il faut amener des nouvelles têtes, et qui, lui, la particularité d'Enrique Morente, parce que Pérez, tout le monde le connaît, Morente, il y a encore deux semaines, personne ne le connaissait en Espagne, hein, c'était vraiment un inconnu. Eh bien, il arrive, il promet de faire venir des stars comme Haaland, et en même temps de faire revenir les anciens glorieux, brouillés avec Pérez, comme Iker Casillas, comme Fernando Hierro, comme Vicente del Bosque, aujourd'hui, qui a dit qu'il soutenait cette candidature et qu'il participerait. Donc petit à petit, l'inconnu dont tout le monde se moquait un peu au début est en train de prendre de la place, beaucoup de place dans les médias aussi. Et on est curieux de voir ce qui va se passer, quoi. C'est un peu comme les élections présidentielles.
Il a une chance de gagner
au début,
ou pas réellement,
tout a l'air très clair, et puis au fil.
Thibaut, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il a une chance de gagner? Je te demandais, Enrique Riquelme.
Ouais, je t'entends. C'est juste que je veux pas te couper. Donc,
vas-y.
Il a une chance de gagner. Il faut voir. On sait pas. En tout cas, il était. On prédisait un plébiscite pour Florentino Pérez. Et puis petit à petit, les espèces de sondages qu'il y a, parce que c'est pas très clair les sondages qu'il y a, c'est des médias qui les font, tout ça n'est pas très très un peu artisanal quand même. Ce qu'on constate, c'est que la campagne de Pérez est en train de devenir beaucoup plus agressive. Alors peut-être certains ont vu passer à un moment lors d'une émission, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir, sur El Hormiguero, qui est la grande émission que tout le monde regarde en Espagne, où l'invité star, c'était le Enrique Morente, qui venait dérouler son programme et qui venait expliquer un peu
Morente ou Enrique Riquelme, comment l'appelle.
Fin de l'émission, Enrique Riquelme. Enrique, c'est son prénom, et Riquelme, c'est son nom de famille.
D'accord.
Et donc dernier, il termine l'émission, merci, au revoir messieurs, dames, etc. Et premier écran de pub, Pérez qui annonce l'arrivée de José Mourinho avec une espèce d'animation un peu étrange où il avait acheté en fait l'écran de pub juste derrière l'émission pour pouvoir damer le pion à son concurrent. Voilà l'ambiance, quoi.
Bon, ça c'est l'ambiance. Et puis il y a des promesses là, on va se poser dessus. Et Fabrice, on est content de t'avoir à nos côtés pour nous dire si c'est réalisable ou pas, c'est un délire absolu.
Bah, déjà il y en a un, il fait des promesses et ils sont démentis dans la foulée.
Enrique Riquelme annonce un ticket Rodri Haaland. Le père d'Haaland dans la folie, mais c'est quoi ce délire? On est où en fait là?
Il a démenti le démenti, Riquelme, depuis. Hein.
Il a démenti le démenti.
Pour dire que oui, il fallait protéger le joueur, mais que ça allait se faire quand même.
C'est incroyable. Franchement, c'est
après,
les deux.
Il a présenté, aussi des documents signés devant notaire. Pff.
Vas-y, continue Thibaut.
Pour justifier et authentifier le fait qu'il avait un accord avec Haaland et Rodri.
On l'a compris, un petit décalage avec Madrid. On se marche un peu dessus. Écoutons notamment ce que propose Florentino Pérez. C'était également en direct à la télévision espagnole. Regardez.
Je vais prochainement faire une offre à un club important de Ligue des Champions, sûrement dès mardi. Ce sera le montant le plus important jamais payé par le Real Madrid pour un joueur. 150 millions au moins.
Alors, les médias espagnols disent... C'est clair, c'est Michael Olise. Voilà. Parce que lui, cite beaucoup de joueurs, il dit non, c'est pas lui. Mais il ne cite pas Michael Olise, en l'occurrence Florentino Pérez. Ça aussi, ça fait beaucoup réagir. Quelle est la réalité de tout ça? Tu l'as pas forcément, mon cher Thibaut. Mais surtout, ma question, c'est est-ce que les socios du Real qui vont voter dimanche, bah, c'est pas des gogos quand même, ils ont assez d'expérience pour comprendre que tout ça c'est du vent.
Non mais attends,
que soit Enrique Riquelme ou Florentino Pérez.
Non, pas totalement, parce qu'en fait il fait des promesses quand même. Il y a de la suite dans les idées du côté de Florentino Pérez. Quand il dit qu'il va ramener José Mourinho, c'est la réalité. D'ailleurs, le Benfica a déjà communiqué pour dire que le Real Madrid a fait une offre.
C'est réalisable, Mourinho, tu vois ce que je veux dire.
Oui, non mais justement. Fabrice. Non mais quand tu dis c'est n'importe quoi des deux côtés, bah pas totalement, parce que de la même manière, le Real Madrid est sur Ibrahima Konaté, il l'a promis Florentino Pérez, Denzel Dumfries, les Néerlandais. Nous disent tous que.
Ce que je veux dire, c'est qu'ils affirment que s'il est président, il viendra. Ça n'a pas de sens de parler comme ça. Tu connais mieux que moi les négociations sur un mercato, surtout à ces hauteurs-là, pour un mec à l'Elysée, pas parler les gens pour des idiots.
Attends,
non plus.
Non, mais il y a deux choses.
L'autre, il dit c'est signé. Signé.
Il y a deux choses. Il y a d'un côté Mourinho, Konaté, Dumfries. C'est du domaine du réalisable.
Bien,
je pense que ça va aller au bout quasiment pour les trois dossiers. Konaté, faudra être sûr, faudra regarder les derniers détails, parce qu'il y a d'autres clubs aussi. Et. Michael Olise, où là c'est totalement différent, parce que Michael Olise, et je l'avais dit, je me souviens en mars, dans un papier sur rmcsport.fr où on parlait notamment de Liverpool et de comment est-ce qu'ils allaient remplacer Mo Salah. Si demain on apprend qu'il y a 150 millions d'euros à mettre pour récupérer Michael Olise, je peux vous dire que l'ensemble des directions sportives des grands clubs, que ce soit Paris, Liverpool, Arsenal, tout le monde va se mettre sur le dossier. Michael Olise, c'est aujourd'hui l'ailier ultime, c'est celui que tout le monde veut. Donc c'est vrai que j'ai du mal à croire qu'il ait déjà un accord avec Michael Olise, et encore plus avec le Bayern Munich qui a dit qu'il était transférable.
Non mais Fabrice, là tu mets les formes, c'est un effet d'annonce. C'est un effet
d'annonce. Oui, c'est ça. Non mais Olise, totalement.
Parce que aujourd'hui,
les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Mais là où il est fort, Florent, pour terminer là-dessus, là où il est fort, Florentino Pérez, c'est qu'il y a un peu de vrai, un peu de faux. L'autre, j'ai l'impression que.
Non mais aujourd'hui, on se satisfait du fait que Florentino Pérez va faire une offre mardi à un club qui peut faire. Bah, on a vu, on refuse. Et voilà, l'histoire est
s'en fout. D'ailleurs, il a déjà fait des promesses, Thibaut, Florentino Pérez, dans le passé, qu'il a pas tenu. Il s'en fout.
Il y a un précédent célèbre, vous avez peut-être vu le documentaire sur Figo. Il se fait élire comme ça, Florentino Pérez, il arrive comme ça, challenger, personne, il sort de nulle part, il se présente contre Lorenzo Sanz qui vient de gagner sa deuxième Ligue des Champions, qui avance les élections comme lui, et il dit je vous amène Figo, personne ne le croit, il dit bah s'il est pas là, je vous rembourserai votre quota de sociaux. Figo lui-même dément dans la presse barcelonaise, et finalement Florentino est élu et Figo est obligé de venir. Vous avez peut-être vu le documentaire, c'était en 2000. Figo vient, il a fait une tête d'enterrement au moment de la présentation, parce qu'il s'est fait un peu piéger par Florentino et l'agent de Figo, et du coup il est venu. Donc ici ils disent si ça avait été avant, ils connaissent le précédent Figo, ils savent que tout est possible en fait, et qu'il y a peut-être quelque chose de vrai, quoi. Donc voilà, il faut prendre en compte cette idée que il y a un peu de cirque, mais en même temps, c'est un club où par définition tout est possible. Quoi.
Mais moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que les deux projets sont catastrophiques, parce que dans les deux projets, c'est la course aux stars, alors que ça fait déjà deux ans que tout ce qui ne va pas au Real Madrid, c'est cette accumulation de stars, et on veut en rajouter encore plus pour se faire élire. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que les socios apprécient ça. Donc je pense qu'on est peut-être un petit peu sadique du côté du Real, parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas, et on veut encore empiler des stars. On envoie 150 millions, et en plus, Florentino Pérez dit au moins 150 millions d'euros. Donc il commence l'enchère à 150. Donc ça peut-être aller beaucoup plus haut, 180, 200, parce que s'il y a
Olise 150 millions,
oui, t'as raison,
il dit au moins. La sémantique, le choix des mots est maladroit. Au moins 150 millions. Parce que on peut aller beaucoup plus haut.
Si Yann Dumandé c'est 130, si Barcola c'est 130, bah Michael Olise c'est au moins 200, quoi.
Ouais. 300 même.
Sauf que Michael Olise,
plus c'est cher, plus ça l'intéresse, parce que c'est de la pub. Donc lui, il dit, et pour le socio, 150 millions, c'est bien, mais le Real, c'est le plus grand club du monde, il doit acheter ses joueurs le plus cher possible. C'est pas, tu vois, c'est pas Lorient ou Ajaccio, pardon, avec tout le respect que j'ai pour les supporters ajacciens et l'Orienté. C'est un club où la somme fait la pub, fait la grandeur du club. Donc plus c'est cher, mieux c'est, en fait.
Florentino Pérez, c'est soit c'est gratuit, ou alors on...
Oui, il envoie de la brillance, de la paillette.
Non,
il
en justement, faut, mais... j'ai une question à poser à Thibaut. T'as beaucoup écrit sur Florentino Pérez et globalement sur Real Madrid. Qu'est-ce que ça dit, notamment, ce que fait en ce moment Florentino Pérez en 2026 sur lui et globalement sur l'entité, le modèle qu'il met en avant?
Ben, en fait, il y a vraiment là dans cette élection l'enjeu. C'est qu'on a un monsieur qui a 79 ans, qui veut pas lâcher le club, qui a pas du tout préparé sa succession, qui gouverne le club un peu en solitaire avec son directeur général Rosensel Sanchez, qui n'a pas de directeur sportif, qui a un lien direct avec les joueurs, qui a épuisé 4 ou 5 entraîneurs en très peu de temps, plus de 50 millions de commissions, plus de 50 millions juste d'indemnités pour les entraîneurs. Et en face, on a un challenger beaucoup plus jeune qui paradoxalement essaie de renouer avec une forme de tradition du Real. Hein, celui qui défend un peu le modèle international, on va se développer, on va privatiser une partie du club, parce que ça c'est un grand enjeu de l'élection, c'est Florentino Pérez. Et celui qui veut revenir un peu aux sources du Real avec les anciens et surtout pas privatiser le club, garder le statut associatif, parce que le club c'est une association, hein, il peut pas lever des fonds comme une entreprise, ben c'est plutôt Enrique Morente. Donc c'est vraiment deux choix un peu. Tu vois, dans une élection présidentielle, on dirait deux choix de société. Bon, ben là, c'est un peu la société, mais au sens
privé. C'est ça. Et Enrique Riquelme, pour être précis aussi, il appuie là où ça fait mal pour Florentino Pérez. Le bilan récent à Real Madrid, l'absence de Madrilène pour la première fois de l'histoire en sélection pour la Coupe du Monde, sélection espagnole. Il appuie également l'envie de faire revenir des joueurs espagnol, en tout cas au Real un peu plus, faire venir un DS, parce qu'il dit c'est absolument hallucinant qu'il n'y ait pas de directeur sportif au Real Madrid.
Il veut que ce soit Raoul.
Et il veut que ce soit Raoul, il est malin. Hierro, directeur de zone de formation, ce sera le cas s'il est élu. Il sait jouer sur la corde nostalgique également, quoi.
Non, forcément. Mais moi, j'ai l'impression.
Il a des atouts, quoi.
Moi, peut-être que je dis une énorme connerie, mais j'ai l'impression que le vieux lion, entre guillemets, Florentino Pérez, ils vont en Enrique Riquelme, le jeune lion qu'il a été. À savoir, celui qui a commis le sacrilège, c'est-à-dire s'attaquer au chef suprême, celui dont on pensait qu'il n'avait pas quitté la présidence du Real Madrid, qui a pas peur d'annoncer notamment des transferts grandiloquents type Erling Haaland. Et moi, j'ai vu dans sa communication du côté de Florentino Pérez, qui limite, faut le voir les interviews, il le dédaigne, il le critique, il le dédaigne très clairement en disant que voilà, Enrique Riquelme, voilà, sa fortune, elle n'est pas si importante. J'ai l'impression que il y a un début de quelque chose qui m'intéresse du côté du Real Madrid, et notamment son modèle de gouvernance, son modèle de présidence.
Mais ce qu'il faut comprendre que le Real, pardon, excusez-moi, faut comprendre que les élections au Real, le Real, c'est l'équivalent d'un ministère. Enfin, c'est quelque chose qui est très important en Espagne. C'est une institution très importante, donc qui est soumise à plusieurs types d'influences. Et il y a des courants dans le club et des courants politiques aussi également, politiques au sens large du terme. Vous avez certaines entreprises qui soutiennent Florentino Pérez, d'autres non. Et on soupçonne la candidature concurrente d'être en fait en sous-main des envoyés d'une autre entreprise qui est pour la cité qui est la grande concurrente de Florentino Pérez, qui est Iberdrola, qui est le fabricant d'électricité en Espagne, et lui il soupçonne en fait que c'est envoyé par ses concurrents pour lui nuire dans les affaires. Donc il faut bien prendre en compte qu'il y a comme ça plusieurs courants, et qu'à l'intérieur du club il y a beaucoup de déçus, il y a beaucoup de gens qui sont tombés en disgrâce du club, hein. Tu as cité tous les anciens, voilà, ça, c'est pour les sociaux du Real, on voit tous les jours, pour les sociaux du Real, l'énigme c'est quand même pourquoi Raoul n'est pas dans le club, pourquoi Hierro n'est pas dans le club, pourquoi Del Bosque n'est pas dans le club, ça c'est, alors ce sont vraiment des légendes absolues.
Et Thibaut, tu me disais tout à l'heure quand je t'ai appelé, il a beaucoup d'ennemis à tous les niveaux, Florentino Pérez. Il a l'UEFA contre lui, on rappelle qu'il était même associé qu'il était clairement associé au projet Super League, avec la direction du FC Barcelone.
Encore
aussi.
Ça s'est calmé récemment.
Ça s'est calmé récemment, effectivement, mais certains n'oublient pas, et il appuie là-dessus également Enrique Riquelme, quoi.
Il y a un paradoxe, c'est qu'avec Florentino Pérez, il s'est fait élire
et pendant encore très très longtemps jusqu'à ça, jusqu'à encore avant, je dirais avant 2020, la politique de Pérez c'était toujours d'avoir une forme de gentleman, non, être un gentleman, parler avec tout le monde, de s'embrouiller avec personne parce que le Real était au-dessus de tout et il fallait absolument représenter cette institution centenaire et être à l'auteur de cette institution. Avec le conflit Super League, conflit avec l'UEFA, avec le conflit avec la Liga, Javier Tebas et l'ensemble des clubs espagnols, hein, la quasi-totalité des clubs espagnols, le conflit avec les arbitres, le conflit au moment du Ballon d'Or, rappelez-vous, les joueurs du Real qui repartent au dernier moment, alors que le Ballon d'Or était l'une des grandes fiertés de ce club-là. Il y a eu une évolution, une espèce de radicalisation de Florentino Pérez qui a un peu interloqué en se demandant, on est passé le club le plus respecté du monde au club le plus ridicule du monde.
Ouais, l'élégance du Real éternel qui est devenu un club parfois hautain et grossier, quoi.
Quand on entend parler Thibaut, on comprend que c'est une élection qui est tout sauf sportive. Au lieu de se concentrer sur les problèmes de l'effectif actuel, avec l'accumulation de joueurs au même poste, avec des joueurs qui sont là depuis je ne sais pas combien d'années, les joueurs historiques en Valverde, Tchouaméni, c'est des joueurs qui ont gagné, qui n'ont peut-être plus aussi fin que des joueurs qui pourraient arriver. On parle d'accumulation de stars, là, tout simplement.
Thibaut, merci, c'est un régal. T'avoir retrouvé dans l'after également. C'était très intéressant d'évoquer la dimension politique, culturelle. Nous, on hallucine en France. Alors, effectivement, il n'y a pas d'élection à proprement parler pour la présidence
du
club.
Il y a un énorme loupé.
Mais c'est fou.
Il y a un énorme loupé.
Culturellement, c'est très différent de ce qu'on vit, nous.
Il y a un énorme loupé. Il n'y a pas eu d'affrontement. Il n'y a pas eu notamment de débat entre les deux candidats.
Alors, oui, Thibaut, on sait ou pas c'est
Il a refusé. Il a refusé parce qu'il est très mauvais en débat.
Il a pas voulu faire Jean-Michel Aulas,
parce qu'il est très mauvais en. Il a refusé parce qu'il est très mauvais en débat. D'ailleurs, il se rappelle une campagne de 96 où il avait été opposé à Ramon Mendoza. Il avait été ridicule face au président de l'époque. Et depuis ce jour-là, il a toujours refusé les débats télévisés.